France Inter. .fr.
Bonjour, nous allons passer aujourd'hui une heure avec Yehudi Menuhin, le violoniste prodige disparu en 1999 et qui aurait eu 100 ans cette année. Une heure pendant laquelle le violoniste et réalisateur de films musicaux Bruno Mont-Saint-Jean, qui a très bien connu Yehudi Menuhin, nous parlera de ce prodige qui éblouissait déjà le monde à l'âge de 5 ans. Surdoué, il provoqua des émeutes dans New York à 11 ans, persuada Einstein de l'existence de Dieu à 12 ans, mais resta toujours d'une immense modestie. Quand Menuhin jouait, on aurait dit qu'il dessinait des volutes de soie dans l'espace avec son archer. Quand il passait quelque part, il éblouissait. Étonnant violoniste qui jouait si juste et militait comme un juste pour la réconciliation universelle. Lui qui joua à Berlin, sitôt la paix signée après la Seconde Guerre mondiale, qui joua dans des camps de réfugiés palestiniens en martelant sans relâche de la nécessité de partager la terre sacrée avec comme capitale Jérusalem. Une heure donc pour évoquer la mémoire et le jeu si intense et vibrant de Yehudi Menuhin avec l'un de ses amis intimes, on peut le dire comme ça, Bruno Mont-Saint-Jean, qui a constitué le coffret « Le siècle de Menuhin ». 80 disques, 11 DVD, un livre qui retrace la discographie du grand violoniste. Bonjour Bruno Mont-Saint-Jean.
Bonsoir.
C'est vrai que vous, vous avez consacré votre vie à la musique. On va d'abord parler de vous parce que c'est aussi comme ça que vous avez rencontré Yehudi Menuhin, que ce soit par la pratique donc de votre instrument, le violon, qui vous a fait rencontrer ce grand violoniste qui était Yehudi Menuhin, ou par les livres et films que vous avez consacrés aux musiciens comme Richter. On connaît aussi très bien le très beau film que vous avez consacré à Glenn Gould et puis Dietrich Fischer-Dieskau. Mais Yehudi Menuhin, ça semble quand même être une histoire tout à fait particulière.
Vous savez, il est tout simplement à l'origine de ma vocation de musicien. Parce que quand j'ai entendu pour la première fois un simple disque du tout jeune Menuhin, et ça m'a fait frémir de telle sorte que je ne pense pas que le frémissement soit encore interrompu chez moi.
C'est vrai ?
C'est ouvert une porte sur une grande partie de mon existence. Quand il est mort, j'ai eu l'impression aussi qu'il avait littéralement illuminé ma vie. Et je crois que c'est rapporter ça à soi, ça n'a pas grand intérêt, mais ça a été le cas d'une gigantesque proportion de la population mondiale, puisque où qu'il aille, Menuhin était célébré, célèbre. D'abord, le degré de célébrité de Menuhin est quelque chose qui n'a touché aucun musicien classique à ce point. Il faut vous dire que j'ai vu chez lui en Californie, au moment où il habitait encore... il avait déjà quitté la Californie, il s'était installé en Europe. Mais j'ai vu chez ses parents, vous savez, ce qu'on appelle des press books.
Ouais.
Et comme il a démarré, ses premiers concerts ont eu lieu quand
jeune.
Il avait 7 ans,
ouais.
Mais il est devenu une célébrité vraiment mondiale à l'âge de 10 ans. Et j'ai vu un sondage d'opinion qui avait été fait sur le territoire des États-Unis en 1930 ou 31, quand Yehudi avait 15 ans. Et où on demandait auprès de la population générale des États-Unis quel était l'Américain le plus célèbre. Premier, Yehudi Menuhin. Deuxième, le président des États-Unis. Et le troisième était un des grands acteurs d'Hollywood. Donc, la célébrité de Menuhin était quelque chose d'absolument phénoménal. Et vous vous seriez promené avec lui dans Paris, ou à Londres, ou à Berlin, ou à Tokyo, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était très difficile. Tout le monde, Menuhin, vous voyez. C'était absolument saisissant. Aujourd'hui, il est mort maintenant depuis donc bientôt 17 ans. Même 17 ans.
Ouais, puisque c'est 99.
Il est mort le 12 mars 1999. Pour vous donner une idée de l'étroitesse de notre amitié, même si il y avait presque une différence de génération entre nous, il m'a écrit sa dernière lettre le 11 mars de l'hôpital à Berlin où il était hospitalisé la veille. Il est mort le 12 et j'ai reçu la lettre le 13.
Alors, on va pouvoir parler de cette longue amitié qui a fait qu'il vous a raconté beaucoup de choses que vous nous livrez dans ce livre qui accompagne ce coffret et qu'on découvre à mesure de tout ce qu'on va voir que vous avez composé autour de lui. En tout cas, j'aimerais bien qu'on parle de ce premier frémissement. Là, le premier, je crois que c'était, vous aviez écouté la danse hongroise en si, sur le 78 tours de la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé de Brahms, hein?
De Brahms? J'ignorais qui était Brahms, bien entendu, j'avais 450 ans. J'ignorais qui était Yehudi Menuhin. Et j'ai été littéralement incendié.
Incendié. Alors on va l'écouter dans la danse hongroise numéro 5 en sol mineur. Mais la vibration, c'est la même époque d'enregistrement. La vibration, je crois, est la même. Vous nous direz. La danse hongroise numéro 5 en sol mineur, arrangée par Joachim, l'arrangeur violoniste ami de Johannes Brahms, et enregistrée donc par Yehudi Menuhin pour parler avec vous, Bruno Mont-Saint-Jean, donc de cette amitié, mais aussi de ses origines de Yehudi Menuhin, de cette histoire qui est la sienne, incroyable, de parents qui étaient russes tous les deux, qui se sont rencontrés une première fois en Palestine, puis une deuxième fois à New York, et là, ils se sont mariés. Mais ils sont partis vivre à San Francisco. Donc déjà, c'est une histoire d'exode.
Et d'abord, un tout petit mot sur la danse hongroise de Brahms, parce que ça définit beaucoup ses origines.
Ah.
Et je trouve que c'est extraordinaire que vous les ayez choisis, parce que, d'abord, parce que c'est un inédit. Il n'y avait pas d'autres...
En effet, il y en a beaucoup, hein, d'ailleurs,
dans ce coffret. Il y a beaucoup d'inédits dans ce coffret, mais c'est un inédit, donc il porte la marque de cette publication. Par ailleurs... Yehudi, depuis le plus jeune âge, avait une aspiration vers l'Est. Il a retrouvé...
Par ses origines, sans doute.
De par ses origines, ou de par son éducation, de par sa culture, de par tout ce qu'on peut imaginer. Mais il a été, d'ailleurs, très rapidement suivre... Il est d'abord venu à Paris travailler avec Georges Enesco. Et Enesco l'a emmené en Roumanie, où il a entendu ses premiers tziganes. Et donc, c'est dans son hongroise de Brahms, ça a été le premier lien classique avec la musique tzigane, qui pour lui a été quelque chose de très important. Alors, cela dit, effectivement, ses parents... sont d'origine russe. Le père est de la Biélorussie, d'un milieu juif orthodoxe.
Ouais.
Sa mère de la Crimée, qui avait une horreur de tout ce qui pouvait ressembler à un ghetto. C'est-à-dire qu'elle a souhaité éduquer ses enfants, et il y avait trois enfants, dont un grand génie qui était Yehudi, une grande génie qui était Hepzibah, sa sœur, qui était absolument... C'était de la même eau. C'est quelqu'un d'aussi profondément génial et original et intéressant et intéressé. Et puis la petite Yalta qui était un petit peu le mouton noir de la famille.
Écrasée par les deux autres.
Et donc cette éducation... L'histoire de Benjamin, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui relève du conte de fées. Pas d'école.
Il n'allait pas à l'école, oui, en effet.
Non, c'est sa mère qui lui a... Yehudi a été mis à l'école, ça a duré 2 heures, et ça s'est terminé là-dessus. Parce que sa mère l'avait interrogé au retour de l'école, et pour savoir ce qu'il avait appris, si ça lui avait intéressé. Et il a simplement répondu, et il dit ça dans mon film, il dit « J'ai simplement vu une branche d'un arbre par la fenêtre, et j'espérais qu'un oiseau viendrait s'y poser. » Voilà. Donc on est tout de suite dans l'ambiance de la poésie, et je crois qu'un gros avantage quand même du système scolaire non obligatoire à l'époque.
C'est ce qu'il disait, oui. Il disait que heureusement l'école n'était pas obligatoire à ce moment-là.
Voilà. Et Yehudi avait toujours des idées un peu iconoclastes, comme il trouvait que l'analphabétisme ne serait pas si mauvais que ça, parce que ça permet de se retrouver avec une indépendance de pensée.
Alors, c'est un garçon qui a appris à parler anglais à l'âge de 3 ans, puisque chez lui, on parlait que hébreu. Et puis, visiblement, les langues, c'était une grande facilité dans toute la famille. Il parlait français, anglais, et puis hébreu. Il lui restait un
italien,
peu d'hébreu,
italien. Espagnol. Epsiba parlait le russe. La mère du Yehudi parlait russe parfaitement. Moi, je parlais toujours russe avec elle. Epsiba a appris le chinois également. Non, c'était formidable.
C'était des gens très doués. Et puis, l'histoire du prénom de Yehudi est aussi une très belle histoire, puisque la mère, qui était très ouverte, néanmoins a voulu protéger son fils dès le départ contre une forme d'antisémitisme.
Ouais. On lui a, quand ils ont cherché un appartement à New York, Yehudi n'était pas encore né. La personne qui louait l'appartement a dit, pour rassurer les parents d'Yehudi, et soyez tranquille, nous ne prenons pas le juif. Et donc la mère a dû dire, dans ce cas-là, nous ne serons pas
vos locataires.
Et ils ont décidé, séance tenante, plus exactement, Maruta Menuhin, Madame Menuhin, a décidé que si son enfant à venir était un garçon, il s'appellera Yehudi, ce qui veut dire le juif.
On écoute tout de suite la danse slave de Dvorak pour rester dans cette origine slave. Dvorak qui lui-même aimait beaucoup la musique populaire et qui a mêlé dans cette danse une mazurka, une danse polonaise, à une dumka, qui est une danse, une pièce ukrainienne proche de la méditation. Et vous nous en direz quelques mots après, Bruno de Mont-Saint-Jean. Donc cette danse slave qui prend une autre tournure à ce moment-là de Dvorak est interprétée magistralement par
un adolescent.
C'est ça, il est tout jeune à ce moment-là.
Il est tout jeune. Et ça, c'était l'envers du 78 tours que j'ai entendu moi quand j'avais 4 ans. L'envers de la danse hongroise en séminaire de Brahms. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de mettre ces choses-là, parce que je trouve que on est au cœur.
On est en 36, hein, c'est ça.
Oui, on est au cœur de la de. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Benjamin? Qu'est-ce qui fait qu'il nous a tous bouleversés? Les gens de toute origine, de tous milieux sociaux, de tout pays. Qu'est-ce que c'est que cette sonorité magique, tellement expressive?
Vous avez dit classique? Elsa Boublil sur France Inter.
Yehudi Menuhin comparait dès son plus jeune âge à Mozart. Mozart que Menuhin considérait comme étant son ami, Bruno Mont-Saint-Jean.
Oui, c'était très curieux. Il l'a découvert après s'être fait, pour la première et la seule fois, fustiger par son père, parce qu'il voulait jouer le concerto de Beethoven. Il avait 7 ans. Hein.
Oui,
Et son professeur lui a imposé de commencer par un concerto de Mozart. Et Yehudi était tellement impatient de jouer Beethoven qu'il a appris le concerto de Mozart en quelques jours. Il faut vous dire qu'il avait donc 7 ans, vous imaginez. Et le professeur a trouvé que c'était négligé, que sa manière de faire, il avait traité ça un petit peu par-dessus la jambe. Et donc, il a dit qu'il ne le reverrait pas tant qu'il n'aurait pas considéré chaque note, chaque intervalle, une vraie conception de la musique. Voilà. Et au retour à la maison, la mère de Yehudi a demandé à son mari, qui était lui-même terrorisé, de sortir sa ceinture. Voilà. Et c'est ce qui, Yehudi raconte que le pauvre papa,
il a fait semblant.
Il mettait la ceinture dans l'air.
Il voulait surtout pas.
Pas d'agression. Et alors, et ça, je trouve que c'est aussi très typique. Si tous les gens qui ont connu Menuhin ont été frappés par la douceur. La douceur qui n'était pas une douceur flasque. C'était quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait. Mais il y avait cette espèce d'extraordinaire considération pour le voisin, pour le frère, et une délicatesse et une galanterie avec les dames absolument merveilleuses.
Alors, petit, il n'avait pas beaucoup d'amis et il dit que lorsqu'il a rencontré Mozart, après avoir été pas fouetté par son père, là, il a eu l'impression de trouver un véritable ami qui l'accompagnait. Alors, on ne va pas l'écouter dans un concerto de Mozart, on va l'écouter dans la sonate en La, qu'il interprète avec sa sœur, Hepzibah, un enregistrement aussi ancien de 1933, et qui est aussi historique, on en parlera juste après.
Sa sœur a 12 ans.
sonate en la de Wolfgang Amadeus Mozart, interprétée par Hepzibah Menuhin au piano et Yehudi Menuhin au violon, un enregistrement fait à Paris en 1933 et qui nous permet aussi de parler de cet enregistrement qui a été fait grâce à Georges Enesco, qui a incité la mère de Menuhin à pousser, je crois, Hepzibah au piano.
Non, ce n'est pas Enesco, c'est Pierre Monteux.
Ah, c'est Pierre Monteux.
Très grand chef d'orchestre.
C'est lui qui a, en tout cas, c'est lui qui a dit, il faut absolument qu'elle s'y mette.
Que ta sœur joue, elle est merveilleuse. Et Hepzibah s'était glissée. Vous savez ce qui se passait à Ville-d'Avray, donc dans la banlieue de Paris,
où
près
ils
de Versailles.
Habitaient.
Les Menuhin sont installés en 1930, ils sont restés jusqu'en 1935. Et pendant l'année, bien entendu, Menuhin, entre 15 et 18 ans, était en tournée à travers le monde tout le temps. Mais la saison était beaucoup moins accaparée qu'aujourd'hui. Au mois de mai, la saison était terminée, ça ne reprenait qu'au mois d'octobre. Mmh. Donc il passait tous ces mois à Paris, enfin à Paris, à Ville-d'Avray, et imaginez que Enesco, qui était ce prodigieux violoniste, pianiste, compositeur roumain, mais complètement français, organisait toutes les semaines, à Ville-d'Avray, chez les Menuhin, une séance de musique de chambre. Et donc, vous imaginez qui était chargé de Yehudi, premier violon à chaque fois, Jacques Thibault, qui était le plus grand violoniste français de l'époque, deuxième violon, Enesco à l'alto, ou bien Pierre Monteux, qui est devenu ce très très grand chef d'orchestre, qui avait créé le Sacre du Printemps de Stravinsky en 1913, et puis Maurice Eisenberg au violoncelle, Alfred Cortot au piano,
c'est
ou
fou.
Bien Enesco, et puis Hepzibah, qui s'est mise à jouer, et jouait miraculeusement. Je n'ai jamais, vous savez, avec le coffret qu'on a sorti, j'ai retrouvé beaucoup de documents inédits, donc beaucoup de choses que Yehudi et Hepzibah ont faites ensemble, et qui n'avaient même pas été montées. Sur des centaines d'heures d'écoute de rush, c'est-à-dire des éléments bruts, je n'ai jamais entendu une note à côté de la part de Hepzibah.
Alors, c'est aussi étonnant de voir à quel point, alors elle était talentueuse, et à quel point lui, Yehudi Menuhin, dit que la relation à la mère, qui trouvait que son fils était un génie, elle avait raison, mais donc qui vouait un culte pour Yehudi, a fait que lui s'est beaucoup tourné vers ses sœurs et a développé lui-même une relation très forte, et avec sa sœur notamment, une relation très forte humaine, mais également musicale.
Il y a eu les deux, bien sûr. Et ça a donné naissance à ce duo mythique, le duo Yehudi et Hepzibah Menuhin, dont on fait paraître la totalité des enregistrements. Là. Tout ce que j'ai pu retrouver, c'est là. Et au point de vue humain, j'ai quelques dans mon film, il y a les choses parmi les plus bouleversantes qu'il a à sortir, parlant de sa sœur et des problèmes qu'il a dû rencontrer vers la fin de sa vie. Bien, elle est morte très tôt. Et il y a quelque chose de bouleversant chez lui, de la même manière que cette manière de jouer les sonates de Mozart, ça tire des larmes encore aujourd'hui.
Alors si on les écoute dans le double concerto pour violon et piano de Félix Mendelssohn, on va pouvoir aussi entendre cette relation qui les unissait, musicale, où effectivement le dialogue semble très présent. Les voici donc dans l'Allegro Molto. Hein. On a choisi l'Allegro Molto pour entendre le dialogue entre ces deux musiciens, frères et sœurs. Thank you. Concerto pour violon en ré mineur, l'Allegro molto de Félix Mendelssohn, avec Yehudi Menuhin qui dirige le Festival Orchestra et Hepzibah Menuhin qui est au piano. C'est enregistré en 1977 et ça sort de ce coffret magnifique de 80 disques que vous avez rassemblé, Bruno Mont-Saint-Jean, pour nous faire découvrir ce formidable violoniste et humain qu'était Yehudi Menuhin.
Faire découvrir, faire redécouvrir,
Mais pour ceux qui ne connaissaient pas quand même aussi.
Vous croyez qu'il y a des gens qui... Oui, 17 ans après sa mort, c'est sûr que chaque, même les plus grands, les interprètes les plus prestigieux, passent parfois par une épreuve de purgatoire.
C'est vrai.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
On va rester avec Yehudi et Hepzibah parce que cette proximité fait qu'ils se retrouvent sur de nombreux points et notamment au moment de leur rencontre avec conjoint. Ils racontent tous les deux à quel point ils n'étaient finalement pas préparés à la vie, à quel point cette vie d'enfant prodige les a complètement coupés du monde réel et ils n'ont grandi que dans la musique et rien d'autre. Ça, c'est très étonnant.
Oui, c'est vrai. Je crois qu'il a fallu le phénomène de la guerre. Pour les marquer tous les deux. Elle avait épousé un propriétaire terrien en Australie, donc elle a quitté. Elle a été certainement très, très privée du merveilleux milieu dans lequel ils évoluaient, parce que c'était un milieu très intellectuel, ou intellectuellement très développé, très cultivé. Il y avait la musique, mais il y avait aussi un formidable... C'était une vraie civilisation. Et quant à Yehudi, il n'étant pas mobilisé du fait qu'il avait deux enfants, il s'est engagé dans un effort de guerre absolument ahurissant. Il a donné des centaines de concerts pour les troupes alliées, traversant l'Atlantique, allant jusqu'aux îles Aléoutiennes, enfin mettant en grave danger sa propre santé. Et il en est sorti certainement un autre homme. C'était quelqu'un qui avait pris conscience de la souffrance humaine et qui a décidé de contribuer autant qu'il pourrait au soulagement des souffrances qu'il pouvait rencontrer. Et ce qui fait que la générosité de Menuhin, c'est quelque chose qui est absolument presque, enfin, c'est tellement éblouissant. Et quand on a été soi-même l'objet de cette générosité, c'est quelque chose dont on est infiniment reconnaissant.
Alors, quand on l'écoute dans le trio de Schubert avec, pour piano, donc violoncelle et violon, et ce qui est ce trio composé à Vienne quelques mois avant la disparition de Schubert, vous savez, celui qui nous fait entendre au plus près la souffrance et la mort qui guette Schubert, peut-être que là, on entend l'humanité qui habite ce frère et cette sœur qui sont accompagnés au violoncelle par Maurice Gendron. En tout cas, c'est un très bel échange entre les cordes et le piano. Le piano trio de Franz Schubert numéro 2 en mi bémol D929 interprété par Hepzibah Menuhin au piano, Maurice Gendron au violoncelle et Yehudi Menuhin au violon. C'était enregistré en 1968 à Londres, donc extrait de ce très beau coffret, de ces très beaux coffrets de 80 CD rassemblés par vous, Bruno Mont-Saint-Jean, et qui nous emmène aussi vers cette facilité qu'avait Yehudi Menuhin, et il le dit lui-même, il dit en fait, pendant de nombreuses années, c'est son instinct qui l'a guidé.
Oui, oui, oui. Écoutez, comment est-ce que vous faites pour jouer du violon? Vous savez comment ça s'est passé? Il souhaitait jouer du violon. Il avait décidé lui-même, il avait été, ses parents l'emmenaient au concert quand il était au berceau, et il avait jeté son dévolu sur le premier violon de l'orchestre, en disant « c'est avec lui que je veux travailler ».
Ah, parce que les parents adoraient aller, même s'ils
Mais ils n'avaient pas de quoi payer babysitter, donc ils emmenaient le petit Yehudi dans son berceau. Et Yehudi a donc décidé d'apprendre le violon, et lorsqu'on lui a donné un, on a commencé par lui donner un faux violon en métal. Et sa réaction instantanée a été de le jeter par terre et de le briser. Et il dit que c'est la seule fois de sa vie où il s'est mis en colère.
Il avait 4 ans.
Il avait 4 ans. Et donc on lui a donné, on a compris que c'était sérieux, on lui a donné un vrai violon. Et il raconte comme quoi il a eu des difficultés au début. Il savait pas, il voulait vibrer, il voulait avoir du vibrato, il voulait réveiller les morts, me dit-il. Et il avait un professeur de quartier.
Qui avait l'air très dur. Hein.
Qui n'a rien enseigné. Et puis, Yehudi a été voir un deuxième professeur, et là, ça s'est déclenché. Et 6 mois plus tard, il jouait le concerto de Tchaïkovski, et les concertos de Mozart, et le concerto de Lalo. Enfin, c'est ahurissant. Ahurissant. Donc, effectivement, ça, c'est, disons, c'est un don d'origine, évidemment divine. Mais lui était marqué. Il était marqué par le divin. C'était l'étincelle, l'aura, la lumière qui dégageait. C'était quelque chose d'absolument angélique. C'était extraordinaire. Et alors, l'instinct, il a fallu à un moment ou à un autre, quand il a eu 16, c'est en fait lors d'une traversée, lors de sa grande tournée mondiale, quand il a donné 115 concerts en un an à travers l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis, la France, l'Europe, etc. Et avant de prendre une année sabbatique, c'est là qu'il a eu conscience qu'il fallait cette fois-ci qu'il prenne une véritable conscience de ce qu'il faisait. Et il a curieusement eu ce prodigieux mélange, parce que c'est être un très grand interprète, c'est forcément avoir le mélange d'un instinct très fort, d'un don, et d'une capacité de conscience de ce qu'on fait. Et c'est lorsqu'on, c'est-à-dire l'intelligence et l'instinct qui doivent fonctionner ensemble. Et il a commencé à analyser ces choses-là quand il avait 16 ou 17 ans.
Et il le disait en éprouvant, enfin, il comparait son métier à celui d'acteur, en disant que lui, il avait besoin, comme les acteurs qui vivent leur rôle en dehors de la scène, il avait besoin de le vivre.
Et qui transmettent des émotions toujours renouvelées. Et il disait, dans le monde du cirque, il y a les acrobates et il y a le clown. Et il dit, Heifetz était l'acrobate, j'étais le clown.
On l'écoute dans le concerto en ré de Johannes Brahms, dans l'Allegro giocoso, où là, peut-être que c'est un ré clown.
C'est un document live.
Exact. Un extrait de ce concerto en ré, opus 77 de Johannes Brahms, l'Allegro giocoso ma non troppo, vivace, et c'était Willem Furtwängler qui...
C'est à Carnegie Hall.
C'est Carnegie Hall et c'est en
1949. 1940. Et c'est en...
Bon, sans doute. En 1950, non 1950. Parce que c'est un enregistrement que vous avez trouvé. Et il regarde parce que comme vous avez 80...
Carnegie Hall, non, vous avez mis celui avec Furtwängler, effectivement.
Oui. Furtwängler, on est d'accord. Pardon. Alors donc c'est Furtwängler qui dirige le Lucerne Festival Orchestra, donc enregistré en 49. Mais vous avez retrouvé un enregistrement, c'est ça, de 1940, et parce que vous cherchez depuis toujours tout ce que Yehudi Menuhin a fait.
Mais vous imaginez que il a été beaucoup retransmis ses concerts à la radio américaine. Et entre autres, j'ai une lettre de Albert Einstein écrivant à Yehudi en lui disant: j'ai écouté hier une retransmission du concert de Beethoven 1934. Il y a donc la date. Il y a la date. Et Einstein était un des fans de Menuhin. C'est lui qui a dit maintenant je sais qu'il y a un dieu au ciel après le premier concert de Berlin. Et donc j'ai cherché comme un fou un concert de Beethoven qui daterait de 1934, mais où s'adresser en Amérique, il y avait déjà des milliers de stations de radio. Je sais pas comment faire.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à dire sur Yehudi Menuhin, notamment effectivement par rapport à Furtwängler, ce qu'il a fait, de vouloir absolument le défendre et dire qu'il considérait que c'était un chef qui méritait d'avoir sa place encore, malgré le fait qu'il soit resté en Allemagne nazie, puisque c'était quelqu'un qui cherchait absolument à se battre pour la paix. Bref, on apprend énormément de choses en vous lisant dans l'album de la vie de Yehudi Menuhin, en écoutant les enregistrements que vous avez trouvé, que vous avez rapporté en 80 CD. Et puis, il y a les DVD que vous avez, enfin les films que vous avez consacrés à Yehudi Menuhin aussi, qui apparaissent dans ce magnifique coffret.
Vous n'avez pas envie qu'on accapare l'antenne pendant jusqu'à, 2 ou 3 mois ensemble?
D'accord, on peut essayer, on en parle. Thank you. Glenn Gould qui interprétait le concerto en fa mineur de Jean-Sébastien Bach, le numéro 5, et c'était donc le largo de ce concerto. Pour parler, pour finir avec vous, Bruno Mont-Saint-Jean, vous indiquez la parution d'un livre signé Jean-Yves Clément qui sort chez Actes Sud Classica, un très beau livre dans lequel cet auteur parle de Glenn Gould, vous qui en avez tant parlé, qui nous avez offert un très beau film sur Glenn Gould. Eh bien, lui essaye de nous faire comprendre qui était ce personnage incroyable, ce pianiste interprète de Bach merveilleux, et notamment le premier musicien a donné à l'enregistrement une véritable dimension philosophique, et c'est vrai qu'il a consacré presque sa vie à ça, n'est-ce pas ?
Écoutez, c'est un petit bouquin.
Ah, vous l'avez lu donc ?
Je l'ai lu, il vient de sortir, mais je l'ai lu, je me l'ai envoyé. Et je trouve que c'est parmi les choses les plus intelligentes qu'on ait jamais racontées sur Gould. Il n'y a pas de paraphrase, c'est vraiment, on est au cœur du sujet. Et Gould n'était pas qu'un interprète de Bach, bien entendu. Ouais. Il y a aussi Scriabine, il y a Sibelius, il y a Berg, il y a Mozart, il y a Brahms, il y a tout ce qu'on veut.
Il y a eu un très beau coffret d'ailleurs.
Vraiment, moi, je conseille de lire ce petit. C'est un petit livre, il y en a pas pour des années à le lire. C'est très, très, très bien fait.
Et on comprend bien qui était Glenn Gould. Et c'est toujours un plaisir à écouter. Je vous voyais en extase. On va finir avec une triste nouvelle, la nouvelle de la disparition du chanteur italien qui était adoré en France, le chanteur Gian Maria Testa, qui est mort. Hier, et en fait c'était un chanteur qui était devenu chanteur alors que son premier métier était chef de gare, et donc c'était quelqu'un qui aimait nous faire voyager. Il était très très marqué par le jazz, par les musiques sud-américaines, et il avait quelque chose, une proximité dans la voix comme ça, la poésie était très présente, et j'avais envie de lui rendre hommage pour finir, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la France par sa poésie et par cette voix si chaleureuse. Il a signé, je crois, son premier disque dans le label de jazz Label Bleu, disque en France. Donc voilà, un dernier hommage à ce chanteur de valse, avec cette valse d'un jour, Il Valzer di un giorno.
Tutto è già qui, anche se non si vede. Tutto è già qui, nascosto fra le pieghe. E se ci stupirà, sarà soltanto come certe novità che sapevamo già. Tutto è già qui, l'adesso e l'indomani. Tutto è già qui, i torti, le ragioni, le grandi verità e le speranze vuote, la voce che non sa per chi si spenderà. Ma oggi, che era un giorno come tanti, preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi, e io che ballare non l'ho fatto proprio mai, mi sono perduto in un valzer che gira per noi. Tutto è già qui, nell'ombra delle cose. L'amore che verrà, le partenze e poi le attese, tutto, tutto è già qui, anche se non si vede, tutto è già qui e non si lascia dire, ma oggi era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi, e io che ballare non l'ho fatto proprio mai, mi sono perduto in un valzer che gira per noi. La 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 la
Il Walzer di un giorno, Gian Maria Testa disparu aujourd'hui. Et Gian Maria Testa qui avait beaucoup consacré beaucoup de ses chansons sur le thème des migrants, puisqu'il avait vu dès les années 90 arriver des réfugiés africains dans les Pouilles, et il s'était dit que c'était important d'en parler. Donc une belle salutation à ce chanteur disparu aujourd'hui. Merci à Marie-Anne Crimbaud, Camille Poux-Jalaguet, Claire Destacan, Alexandre Chesnay. Merci à vous, Bruno Mansaint-Jean, d'être venu partager cette heure autour de Yehudi Menuhin.
Ben, j'étais ravi de venir parler de mon cher Yehudi.
Et je rappelle que Le siècle Yehudi Menuhin est sorti chez Warner Classics, 80 CD, 11 DVD, un livre, de quoi passionner tous ceux qui auront découvert peut-être aussi quand même aujourd'hui le grand Yehudi Menuhin. Merci à vous, au revoir.